Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello tout le monde.
Et d'ATH.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Final Fantasy IX, nous évoquerons un nouveau label indépendant, nous parlerons du trailer de Katana Zero, on évoquera Tunch, Assassin's Creed Odyssey, qui se fout de la gueule de ses joueurs, on parlera d'Electronic Arts, qui se fout de la gueule du monde entier, et enfin, on terminera avec la démo de Resident Evil 2, une démo qu'elle est bien, mais putain, pourquoi l'avoir limitée dans le temps? Nous y reviendrons tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va commencer avec Final Fantasy IX. Je vous en parlais il y a quelques podcasts de cela, hein, l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer les backgrounds de jeux vidéo, etc. Eh bien, ça y est, il y a une version bêta d'un mod qui est sorti pour la version PC de Final Fantasy IX, avec tous les backgrounds HDisés par une intelligence artificielle. Je vous mettrai un lien pour le téléchargement. Alors, je précise encore une fois que c'est une version bêta. Le créateur est en attente de retour. N'hésitez surtout pas à le contacter sur les réseaux sociaux, et ce d'autant plus que c'est un Français, n'est-ce pas? Un certain The Pilot qui est très connu puisque il bosse notamment chez Factor News, pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas à lui faire vos retours, etc. Je pense qu'il est très demandeur sur le sujet. Voilà.
Ouais, super taf. Déjà, c'est hyper impressionnant de voir directement via une IA, donc après, effectivement, il y a...
Qui la traîne lui-même, hein, je précise, hein, parce voilà. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oui, il a déjà utilisé des trucs qui existaient déjà, etc. » Non, il a fait bosser spécialement pour améliorer les backgrounds de Final Fantasy IX. Hein. Ouais. Il n'a pas juste fait un transfert comme ça. Il a même développé des trucs et tout pour faciliter le modding. Donc voilà, il a bossé.
Et c'est hyper intéressant parce que tu te dis après, bah, jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce type de techno. Donc là, c'est super intéressant de voir déjà ce qu'il a pu faire. Mais en tout cas, c'est hyper impressionnant. Et j'ai surtout hâte de voir après les retours et après les différentes itérations ce que ça peut donner si on va pouvoir utiliser ce type de techno à l'avenir pour des remasters rapides ou ce type de choses-là. Quoi.
Un indice. Beaucoup de personnes pensent que la version PC de Catherine s'est passée par une intelligence artificielle. Il y a pas mal d'indices qui laissent à penser.
Voilà. Ah, donc ça fonctionne aussi pour des jeux quand même assez récents, quoi. C'est pas limité aux anciens jeux, quoi.
Bah pour le coup, c'est même plus facile pour les jeux récents, parce que en général, les jeux récents déjà, on a les sources, et en plus elles sont dans une résolution pas aussi dégueulasse que ça.
Ça peut aider.
Du coup, forcément, ça facilite le travail pour HDiser la chose.
Ah mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir comment ce processus va être appliqué en fait à d'anciens jeux qui avaient par exemple sur PlayStation 1. Parce que là on passe à Final Fantasy IX qui était déjà un jeu très joli pour la console à l'époque. Il est sorti en fin de vie de la PlayStation. Mais peut-être sur d'autres titres qui sont sortis en début de génération, voir ce que ça peut améliorer. Mais surtout, comme tu l'as dit en parlant de Catherine, les éditeurs vont pas se priver pour nous ressortir des remasters opportunistes.
Ouais,
hein.
Par contre, va falloir espérer qu'ils vont le faire un peu mieux sur Catherine, parce que justement, le problème de Catherine, c'est que... comment vous expliquer? Un des problèmes du fait d'utiliser des intelligences artificielles, c'est qu'elles sont très sensibles à tout ce qui est bruit, vous savez, sur les images. Et le truc, c'est que quand tu HDises une image avec pas mal de bruit, par exemple, ça va rajouter des trucs qui n'existaient pas à l'origine, parce qu'elle va interpréter le bruit comme un détail qui existait sur l'image, sauf qu'en fait, c'est pas un détail, c'est un truc qu'il faudrait supprimer, tu vois. Mmh. Et donc, pour pas avoir ce genre de merde, il faut quand même bosser un peu. Sauf que justement, dans Catherine, on retrouve des artefacts, etc., qui sont très symptomatiques du fait que ça a été fait avec une IA, mais à l'arrache, quoi.
En gros, le mec a fait « Laisse bosser l'IA, Robert !» Et puis ensuite, il a dit « Vas-y, allez, mets sur Steam !»
Et surtout, ce que tu disais sur le bruit, pour ceux qui ne voient pas ce que ça donne en termes d'image, en fait, ça rajoute un grain sur la qualité visuelle d'un titre. Ouais. Et par exemple, si vous avez des jeux qui possèdent des modes photo, vous avez souvent atténuation du bruit. Et ben, augmentez le contraste au maximum et vous allez voir l'effet que ça donne sur le rendu de l'image. Et il y a vraiment une différence nette et précise quand tu appliques le filtre à fond et quand tu le retires. Donc, si vous voyez pas ce que ça donne, testez sur un jeu qui propose un mode photo tout bêtement et mettez le
ou même tester sur vos photos de vacances, hein, vous allez voir tout de suite ce que ça fait d'avoir du bruit sur une image. Et imaginez maintenant que tous ces détails-là, ils se retrouvent amplifiés par l'intelligence artificielle qui va interpréter ça comme des détails qu'il y avait sur l'image, alors qu'en fait, non.
Voilà.
Voilà. On va enchaîner, messieurs. On va maintenant parler d'un nouveau label indépendant. C'est un label, ma foi, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est lancé par ModDB. ModDB, pour les trois pèlerins du fond qui ne connaîtraient pas, c'est un énorme site consacré au modding. C'est même un des tout premiers sites consacrés au modding. Et les gars se sont dit, bon, écoutez, on va lancer un nouveau label indépendant qui va s'appeler Modularity et dont l'objectif, ce sera de lancer des jeux indés favorisant le modding. Tout simplement. Leur premier jeu, c'est un jeu de gestion de base spatiale qui s'appelle Meeple Station. Ça ressemble un peu à Space Base Def 9, en espérant que ça sera mieux. Hein. Ça ressemble aussi un peu à Star Monster que j'avais déjà évoqué ici. Je vous mettrai le lien vers le podcast où on en parlait. Alors, je sais pas ce que donnera le jeu. Il faut savoir que c'est un jeu qui avait échoué sur son Kickstarter, mais qui a ensuite connu un certain succès sur itch.io. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme de vente de jeux indépendants, tout simplement. Et donc, ben, ma foi, un label qui favorise les jeux favorables au modding, déjà, je suis pour. Et ensuite, en plus, les mecs sont tellement sympas qu'ils ont mis à disposition un plugin pour Unity qui permettra de faciliter le modding. Voilà.
Franchement, c'est donc super intéressant sur le principe. Ce qui va être surtout sympa, c'est de voir justement le type d'expérience qu'ils pourront apporter, parce que si on est sur des trucs favorables au modding, donc je pense qu'on, bah là, on le voit avec le premier jeu annoncé, on va être beaucoup sur de la gestion, etc. Donc c'est super intéressant et à voir ce que ça va donner.
Mais moi, je pense que même un jeu de plateforme en 2D, tu peux aussi rajouter, par exemple, des niveaux supplémentaires ou du contenu annexe.
Ouais, genre un espèce de Super Mario Maker, tu vois,
voilà,
super sympa.
Donc je pense pas que ça va être restreint justement à un seul type d'expérience.
Bon, messieurs, on a eu un trailer de sortie pour Katana Zero. Ça sort quand, Dwayne, dis-moi?
Alors, c'est courant mars, donc mars 2019. Katana Zero, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a très longtemps. On avait eu un premier trailer en 2015. En gros, c'est un platformer d'action avec un style un peu à la Hotline Miami, on va dire.
D'ailleurs, pas que dans l'esthétique, hein, aussi dans les concepts de gameplay, parce qu'il me semble, comme Hotline Miami, tu te fais one-shot.
One-shot,
déjà.
C'est ça.
Et ensuite, tu recommences tout le niveau et le but, c'est d'exécuter parfaitement le niveau qui t'est proposé, quoi. Avec du slow motion, quand même,
c'est
on précise, du bullet time en 2D, dirons-nous.
Exactement. Apparemment, le storytelling va être assez prédominant, donc à voir ce que ça peut donner. Donc en tout cas, moi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup hypé lorsqu'il avait été annoncé. Après, ben, comme on en discutait en off, effectivement, on a maintenant pas mal de pixel art, tout ça, donc vous, je sais que c'est un truc qui commence à vous saouler un peu.
Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, si tu veux, mais c'est même pas que je suis fatigué, c'est à chaque fois je me dis, s'il vous plaît, les gens, un peu de diversité, quoi, par pitié, le pixel art, on en voit partout, est-ce qu'il serait pas temps, un peu, d'essayer de faire autre chose et d'innover un peu, quoi. Et pourtant, je demande pas grand-chose, hein. Je demande juste qu'on fasse des jeux en 2D avec une technique d'aujourd'hui, quoi, en fait. C'est tout. Hein.
Donc, dans tous les cas, comme il avait été annoncé en 2015 et que j'avais été super hypé, donc je l'attends toujours, même si effectivement, bah, maintenant, le marché a un peu changé, puis il y a eu des titres entre 30 qui sont sortis, mais j'ai bien envie de voir bah, ce que ça va donner. Et puis en plus, il a pu trouver un partenaire avec Devolver, parce qu'avant, il était chez Adult Swing Games, qui est un peu moins quali, on va dire, donc c'est cool pour eux. Donc à voir ce que ça va donner, quoi. Ça arrive dans 2 mois, donc voili voilou.
Pour revenir au fait que tu disais, ouais, le pixel art, on en a un petit peu marre. C'est pas que j'en ai vraiment marre, c'est juste que je trouve que c'est un peu la facilité aujourd'hui par rapport aux indépendants. Ils se disent, on va faire du pixel art parce que c'est le truc qui va faire vendre, et puis c'est, même si c'est pas vraiment le cas, mais c'est simple à faire. Alors que...
Ouais, parce que je précise que, par contre, pour le jeu dont on est en train de parler en ce moment, ça a de la gueule, hein, faut pas déconner.
Ah ouais, non,
tu
mais
vois les animations, c'est ouf. Hein. Je tiens juste à préciser que, certes, on était blasés du pixel art, mais dans le cas présent, quand même, c'est un jeu qui envoie du steak. Ouais. Hein,
bah, mais après, de toute façon, c'est, on dit ça en général, c'est évidemment hein, comme à l'époque où il y avait 1 million de shooters qui sortaient. De toute façon, à chaque fois, tu sais, quand il y a des modes et puis que tout le monde essaye de la suivre, on a toujours un paquet de déchets qui arrive et ça devient un peu relou.
Bah
quoi.
Disons que pour moi c'est même plus une mode, c'est devenu un standard. Si tu veux.
Ouais.
C'est-à-dire que t'es un dé, tu dois faire du pixel art. Alors je sais pas si c'est une question de moyens, peut-être que c'est ça. Encore que je suis désolé quand je vois par exemple le jeu dont on va parler ensuite ou encore un Hollow Knight qui avait un budget ridicule. Alors certes c'est des jeux qui utilisent aussi peut-être des astuces pour faire des animations moins chères, notamment avec peut-être des personnages un peu moins détaillés, ce genre de choses. Mais moi, par exemple, le jeu dont on va parler après, ben, je suis un peu plus enthousiaste vis-à-vis de la direction artistique. Mmh. Alors que pourtant, j'aurais tendance à penser qu'il y a eu plus de taf, en tout cas pour le moment, sur ce Katana Zero. Bon, d'ailleurs, je parlais du jeu suivant, on va attaquer direct. Hein. On l'a déjà évoqué ici, on va pas s'étendre 3 heures dessus, c'est Tunch, le jeu avec un titre à coucher dehors. Donc, ils ont lancé leur campagne Kickstarter, Dwayne l'avait teasé, ça y est, elle est là. En plus, il y a une démo, je sais pas si t'as eu l'occasion d'y jouer, Dwayne.
Ouais, j'ai testé un petit peu, donc ça s'appelle D'accord. En fait Tunch Arena, donc on la trouve sur leur Kickstarter, sur Steam, partout. Du coup, on est sur du, comme on l'avait dit, 2D, beat'em up, un peu avec du mix roguelike. Donc, on va pouvoir après faire du de la coop. Leur Kickstarter est lancé, il reste 26 jours. On est à 11 000 euros sur les 30 000 demandés.
C'est bien parti.
Voilà, donc c'est bien parti. Et sinon, pour la démo, donc j'ai testé un peu, c'est assez intéressant. On a pas mal de palettes de coups, etc. Ils ont envie de prendre un style un peu à la DMC, Bayonetta, et d'avoir un max de combos différents, et d'avoir un système de combat assez poussé. J'y ai joué un petit peu, c'est vraiment stylé. Déjà, rien qu'au début, il y a un énorme arbre de compétences où on te donne quelques crédits et tu peux sélectionner et faire à ta sauce. Donc, en tout cas, je suis plutôt confiant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi.
Et en plus, on rappelle, c'est dans un univers original, puisque ça se passe dans la forêt amazonienne.
Ouais.
Ils sont brésiliens, je crois, non?
Alors, c'est péruvien. Ah oui, juste pour préciser, Tunch, du coup, c'est le nom d'un folklore un peu péruvien dans la forêt amazonienne. Donc, c'est un espèce d'esprit. Donc, y a pas mal d'histoires autour de ça. Et le jeu va justement se baser autour de ce folklore péruvien, du coup.
Ok.
Et juste pour finir, c'est que tous les joueurs, à mon avis, ne seront pas lésés parce que le jeu est prévu sur Switch, PS4, Xbox One, Windows et même Mac.
Et en plus, c'est pas du pixel art.
C'est ça.
Bon, messieurs, excusez-moi, je vais chercher ma calache. Alors, je reviens. Donc, Ubisoft, ça faisait longtemps, ou pas. Pour ceux qui auraient joué à Assassin's Creed Odyssey, vous le savez, l'une des évolutions majeures de cet épisode, c'est le côté RPG. Hein, c'est vraiment, on va dire, le gros changement par rapport à Origins. Et donc, bon, on s'attendrait quand même à ce que dans la suite des événements, hein, c'est-à-dire tous les DLC qu'a prévu de sortir Ubisoft, et on sait qu'ils vont en sortir, hein, parce qu'ils ont prévu, c'est un jeu à service, hein, ma bonne dame, ben, qu'ils respectent un peu le contrat de base, quoi. C'est-à-dire que bon, vu que c'est un RPG avec des choix, etc., ben, il faudrait que nos choix, ils comptent. Alors, je demande pas non plus que ça va impacter l'univers du jeu, ce genre de choses. Je sais très bien à qui j'ai affaire, hein. C'est Ubisoft. Je rêve pas non plus, tu vois. Mais quand même, qu'on respecte un minimum de choix fondamentaux. Et là, ben, quel est mon souci? C'est que, il y a un choix assez fondamental sur lequel il vous chie à la gueule. C'est-à-dire que dans le dernier DLC, là, avec l'espèce de vieux assassin, là, qu'on croise dans le jeu de base, ben, il vous force à forniquer avec un monsieur, ouais, avec une madame, et avoir une descendance. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir un gamin. Par exemple, si vous êtes gay et que vous aviez une romance homosexuelle, allez vous faire foutre. Si vous jouiez le beau ténébreux solitaire, allez vous faire foutre. Moi, par exemple, c'était mon cas. C'est-à-dire que, bon, déjà, à la base, très honnêtement, je trouvais les romances dans ce jeu tellement malaisantes que j'ai vite arrêté... d'essayer d'en avoir parce que je trouvais ça tellement mal écrit que voilà, j'ai vraiment joué le délire du mercenaire solitaire qui ne vit que pour le combat, etc. Et là, on va me forcer à avoir des putains de mioches. Et vous savez à quel point j'adore ça, les mioches. Hein. Je rappelle que je suis le monsieur qui se marre quand des mioches se font boulotter dans Skyrim par des dragons. Hein, juste au passage. Donc, si je pouvais balancer mon bébé à la mer dans Assassin's Creed Origins derrière, à la limite, pourquoi pas. Mais bon, voilà quoi. Donc, bon... Je trouve ça quand même assez problématique que l'une des features principales de ce nouvel épisode, ben, ils y aient pas réfléchi plus que ça, en fait, parce que c'est bien ça le problème. Ils ont dit, en gros, aux joueurs qui pensaient que ils allaient pouvoir incarner un personnage et pas juste suivre l'aventure d'un Edward Kenway, par exemple, ou ce genre de choses, ben, finalement, vous savez quoi, vos choix? Vous allez vous les foutre dans le cul. Parce que nous, on a décidé que ça, ça nous arrangeait pour la suite de l'histoire, et puis c'est tout. Voilà.
Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que, comme tu le dis, pour le côté homosexuel, j'ai découvert la vérité. Je ne suis plus
non,
gay.
Mais c'est d'autant plus drôle que Ubisoft a énormément joué sur ça dans sa com, et derrière, évidemment, le retour de bâton ne s'est pas fait attendre hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, quoi.
Et puis voilà, le fait que, surtout, qu'on t'impose un personnage que... Bah tu n'as pas choisi, alors que c'est le contrat quand tu choisis ce type de jeu-là en RPG, en monde ouvert, avec des choix narratifs. En général, le truc sur lequel les mecs ils déconnent pas trop, c'est les romances. Par exemple, Mass Effect, il a eu un succès par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que tu choisissais ta romance et puis tu décidais de garder ta romance soit du début jusqu'à la fin de la trilogie. Enfin, même si dans le 2 ou dans le 3, le personnage n'était pas disponible, et bah t'avais des allusions à cette romance-là et du coup, il s'était expliqué. Là, tu vois, il s'est fait un peu de manière trop brutale, en fait. Mais surtout, le truc qui est assez drôle, c'est que bah déjà les romances dans le jeu de base c'était toutes pourries hein. Alors moi contrairement à toi j'ai niqué tout ce qui pouvait bouger quasiment tu vois. Comme tu dis c'était tellement malaisant que du coup moi ça me faisait rire. C'est digne d'un téléfilm de M6 le dimanche soir à l'époque hein, pour ceux qui savent. Mais le pire c'est que t'as même pas un bout de téton ou un petit truc tu vois à te mettre sous la dent pour dire voilà t'as eu quelque chose là. C'est-à-dire que les personnages disent on va baiser, ils vont baiser, mais t'as un fondu au noir et puis après le mec il fait ah c'était bien, ok. Et puis après, il part et la romance, en fait, elle n'a aucun impact sur le personnage. Tu pars et tu t'en fous de ce que t'as fait comme romance. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une sorte de construction d'amour. C'est juste, il pèse et puis c'est fini, en fait. Donc voilà, quoi. Déjà, c'était raté dans le jeu de base. Donc, qui rate ça dans le DLC, ça me choque pas plus que ça, quoi.
Bah, disons que, au-delà de l'aspect romance de la chose, ce qui est dérangeant, c'est que tu dis, bon, ok, là, c'est des romances, mais finalement, on peut étendre ça à tout le jeu. C'est-à-dire que dès qu'on va donner un choix, finalement, tu vas dire, ben oui, mais en fait, quand ça vous arrange pas, vous vous en battez les couilles de mon choix. Donc à quoi ça sert que j'en fasse des choix?
Non, mais c'est exactement ça.
Mais c'est ça le problème, quoi, tu vois, c'est que pour la suite, on se dit, ok, là, ils nous ont forcé une romance parce qu'ils voulaient qu'on ait une descendance, et que j'imagine, du coup, que... Parce que ça les arrangeait, tu sais, dans la suite de l'histoire, des prochains DLC qu'ils ont prévu de sortir, il fallait absolument que t'aies un marmot que probablement on va enlever, ou voilà, enfin, je mets ma main au feu que ça va être un truc comme ça, tu vois, une connerie dans ce genre-là. Du coup, tu dis, donc, s'ils sont prêts à forcer des choix quand ça les arrange, qu'est-ce qui me dit que ça va pas être la même chose à chaque fois que ils auront besoin de sortir tel ou tel DLC ou ce genre de choses? Et pas que dans le cas de romance, quoi, dans plein d'autres cas.
Ou même tout simplement pour la fin de l'histoire. Alors là, je parle pas directement d'Assassin's Creed Odyssey, mais par exemple, admettons que tu as une fin apocalyptique où le monde est détruit. Ah bah en fait, une fin apocalyptique dans le DLC, ça nous arrange pas trop parce que si le monde est, y a plus rien, bah on peut pas continuer l'aventure et du coup on peut pas te vendre le jeu 30 boules. Mmh. Et du coup ils disent, bah en fait la fin qu'on a choisie pour tout le monde, c'est la fin A, en fait la best ending où t'as sauvé le monde et t'es le héros et etc. Voilà, c'est un petit peu con de faire des jeux à choix, mais quand le DLC sort, bah en fait tes choix sont périmés en fait. Donc c'est un peu bête, ouais.
Voilà. Bon, bah, ce qui est sûr en tout cas, c'est que déjà à la base, j'étais pas hyper enthousiaste pour m'attaquer au DLC d'Odyssée. Déjà que j'ai pas été foutu de finir le jeu de base. Alors là, autant vous dire que c'est terminé. Bon, messieurs, on va maintenant parler... On va maintenant parler d'Electronic Arts, hein.
Qui reviennent aussi souvent qu'Ubisoft, mais ils sont un peu moins marrants qu'Ubisoft quand même.
Ouais, ouais, parce que eux... Non, bon, sérieusement, je rappelle que il y a quelques temps de cela, ils annonçaient que la super équipe qu'ils avaient mis en place avec Amy Henning pour faire un Star Wars Uncharted-esque, n'est-ce pas? Bah finalement, ils laissaient tomber tout ça et qu'ils allaient faire un open world. Bon, évidemment, ATH et moi, on était un peu déçus parce que Amy Hennig, on adore ce qu'elle fait en matière d'écriture, donc forcément déception. Elle s'est cassée, évidemment. Et depuis, donc, ils bossaient sur leur open world de Star Wars. Et ils avaient fermé un studio au passage, il me semble. Hein. C'est ça, oui. Oui, oui, c'est ça, oui. Non, non, c'est un petit détail de l'histoire, hein, excusez-moi, mais voilà. Bon, cette fois, ils ont été sympas, ils ont pas fermé l'autre studio. Par contre, ils se sont dit, bon, ah bah tu sais quoi, finalement, les open world, c'est un peu chiant. Parce qu'il y a la nouvelle génération qui arrive bientôt. Et bientôt, c'est genre 2020, allez, 2021 max, tu vois. Et c'est long, les open world à faire, en fait. Hein. Donc du coup, on va passer sur un plus petit projet. Et là, tu te dis, mais attends, le projet d'Amy Hennig, là, est-ce qu'à la base, c'était pas genre un plus petit projet, Star Wars, qu'on aurait pu produire dans un délai raisonnable, qui aurait pu sortir en 2020 Non, mais est-ce qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose, en fait, là?
Non, mais c'est dingue. Non, mais en plus, vous entendez quand même ma voix calme. Enfin, je suis un mec extrêmement posé, voire parfois trop. Quand j'ai lu ça, mais j'étais dingue. J'étais là, mais putain.
Je précise que Dwayne a déboulé dans le chat de la rédac en mode vénère.
Ouais, j'étais là, mais ils sont sérieux. Mais c'est parce que c'est exactement ça, c'est ce que t'as dit. C'est les mecs, ils tuent un studio, ils te disent ouais non, nous on veut pas d'expérience solo parce que ça marche pas et tout. On veut faire un gros open world parce qu'on est yé, qu'on a des bollocks et qu'on veut prendre le max de thunes. Et maintenant, ils te sortent qu'ils veulent faire un plus petit projet, c'est ridicule.
Alors, cela dit, Dwayne, un peu petit projet, ça peut être un jeu sur mobile.
Oh putain.
Ça sera le coup de grâce qu'il nous fasse une petite Blizzard, tu vois, pour terminer la petite cerise de merde sur le gâteau, tu vois. C'est...
Non mais à mon avis, en fait, le problème c'est que pour le jeu Star Wars qui devait être fait par Amy Hennig et aussi Jade Raymond qui avait rejoint le projet, plus l'équipe de Visceral Games, ils avaient un peu une dream team pour faire un jeu qui allait durer en maximum une dizaine d'heures, on va dire un jeu linéaire.
Oh bah en plus, c'était Visceral, hein, genre Visceral, voilà.
Ouais.
Un studio qu'on aimait beaucoup, hein. Voilà.
C'est ça, mais donc, du coup, ils avaient une équipe comme ça, ils se disaient, ouais, mais c'est un jeu solo qui va durer 10 heures. Il n'y a pas moyen de mettre des loot box en général dans ce genre de jeu. Du coup, on va l'annuler pour faire un jeu open world. Et du coup, là-dedans, on pourra mettre plein de lootbox, parce que c'est un jeu qui va durer très longtemps, et les gens ont envie d'avoir des R2-D2 à gogo. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la polémique avec Star Wars Battlefront 2.
Ouais, et puis n'est pas Ubisoft qui veut, en plus. C'est-à-dire que Ubisoft, par contre, tu vois, je pense qu'il serait capable hein, de sortir un jeu dans ces délais-là. Je sais que tout le monde les critique pour avoir une masse salariale absolument gargantuesque, mais c'est pas pour rien qu'ils arrivent à sortir des open world dans ces délais, hein,
bah oui,
et
oui,
que
clairement.
Electronic Arts n'en est pas capable.
Et surtout que, vu qu'ils ont beaucoup d'équipes différentes, c'est que... En général, et ils ont raison de le faire, hein, on va pas leur cracher dessus pour ça, c'est qu'ils reprennent des assets d'autres jeux pour simplifier les tâches.
Ah bah, dans Odyssey, tu sens le For Honor qui n'est pas loin.
Ouais,
hein,
et puis même, il y a eu tout le travail qui a été fait en amont sur les anciens Assassin's Creed. On peut penser à Skull and Bones qui va en partie reprendre des mécaniques de Assassin's Creed Black Flag. Mais du coup, vu qu'eux, ils ont beaucoup d'équipes différentes et qu'en général, les jeux se passent dans des univers différents, ils arrivent un peu à masquer ça et du coup, ça passe. Mais là, le problème, c'est que Electronic Arts, ils ont fait les cons. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis pas trop chaud, tu vois, pour un jeu Star Wars en open world, parce que on disait pour les indépendants, le pixel art, c'est un genre de jeu qui revient. L'open world, je sais pas si vous vous rappelez de l'E3 2016, les mecs, ils nous ont vendu de l'open world à toutes les sauces.
Et puis la licence qu'ils ont aussi, ils ont Star Wars. Les gros cinéphiles, qu'est-ce qu'ils kiffent dans le jeu vidéo? C'est les jeux PS4, Uncharted, les trucs linéaires. Donc comment tu vends un Star Wars à ces gens-là? Ils avaient le jeu Star Wars idéal pour vendre la licence. Et ils ont tué un studio pour faire de la merde.
Bon, par contre, à un moment donné, il va falloir poser une question. Disney.
Ouais, clairement.
Très sérieusement, comparer la productivité de la licence avant Electronic Arts et après Electronic Arts. Regardez le nombre de jeux qui sont sortis avant et après. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'il y a eu ce deal d'exclusivité, Electronic Arts a sorti deux jeux. Avant, je vous assure, c'était beaucoup, beaucoup plus. Alors certes, c'est vrai que c'était beaucoup plus, mais il n'y avait pas peut-être des maniaques du contrôle derrière, comme Disney, qui était là en mode « vas-y, on va tout checker, on va tout machin ». Oui, sauf que là, au bout d'un moment, en fait, Electronic Arts, ils font rien avec la licence. Non, mais sérieusement, quoi. Deux jeux qui sont sortis, il y en a un des deux, c'est la suite du premier, quoi. Tu vois. Dans le genre, on n'en a pas branlé une, voilà, quoi. Donc, Electronic Arts ne fait rien avec la licence. Alors, je vous dis pas non plus de totalement leur retirer de la licence. Ils peuvent finir leur jeu. Je suis pas pour que des gens perdent leur emploi, hein, soyons clairs. Par contre, le délire d'offrir une exclusivité à Electronic Arts, au bout d'un moment, va peut-être falloir revenir dessus, quoi, parce que ça marche pas, quoi.
Le problème, je pense que c'est qu'ils ont eu les moyens d'avoir l'exclusivité. Je prends une comparaison qui a un peu rien à voir, mais c'est juste pour que vous compreniez. Par exemple, FIFA. FIFA a toutes les licences quasiment de tous les championnats. Et à côté, t'as PES, le pauvre. C'est un peu le championnat de Roumanie qu'il y a dans le jeu, quoi. T'as 2-3 licences officielles, mais après t'as des grands clubs, par exemple comme Manchester United, Liverpool et tout ça, qui ne sont pas officialisés dans le jeu, et du coup t'as des aberrations comme Manchester United qui s'appelle Man Red. Et en fait, pourquoi PES ne peut pas avoir ces licences-là, c'est parce que Electronic Arts a payé un paquet de pognon pour que ça soit exclusif à leur licence. Et moi je pense que pour Star Wars, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont signé un gros chèque à Disney. Et
Non mais à la TH, qu'ils aient signé un gros chèque, ça, je veux dire, tout le monde s'en doute, tu vois. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, ce qu'attend Disney aussi, c'est que ça ait un impact positif sur sa licence, que ça rapporte du pognon en plus. Et là, honnêtement, du pognon, Electronic Arts, ils en font pas beaucoup, quoi. Et pire que ça, c'est un impact négatif sur la licence. Donc, à un moment donné, je pose la question à Disney, quand est-ce que vous allez vous sortir les doigts du cul et remettre en cause le partenariat avec EA, parce que là, ça commence à être chaud quand même, quoi.
Après, concernant le deal en lui-même, je pense que ça doit être assez béton s'ils sont pas directement revenus dessus après le fiasco Battlefront 2. Donc, je pense qu'une fois que ce sera terminé, ils pourront faire un système qui a l'air plus sain, un peu à la Marvel, où bah tu files une partie à Sony, une partie à Square Enix, enfin, ils pourront faire un système un peu plus intéressant.
C'est ce qu'il aurait dû faire à la base.
Ouais, bah parce que c'est ça le problème quand tu fais un deal exclusif. Si le mec à qui t'as fini le deal, bah c'est un gros gland, ben voilà, tu te retrouves avec de la merde. Bon, allez, on va terminer cette semaine d'actualité avec la démo de Resident Evil 2 qui est enfin sortie. Alors, je vais pas faire jeu suspense, hein, maintenant c'est garanti, ce jeu, je vais l'acheter.
Non, déjà. C'est pas Resident Evil 2. Hein. C'est Resident Evil 2.
Ok, très bien. Très bien.
Mais toi, t'as pas joué au jeu
et
à l'époque.
Et après, nos auditeurs osent me dire dans les commentaires, quand je fais du rap Pokémon, que c'est gênant, etc. Alors que ATH fait des trucs comme ça.
Non, mais
vous
voyez,
moi, donc, mais je ne comprends pas.
Mais
nos
moi,
auditeurs,
c'est référencé,
voilà,
c'est pour ça.
Ouais, bah, c'est ça.
Quand tu lançais le jeu à l'époque sur PlayStation, l'écran titre, c'est ça. T'as une grosse voix qui t'annonce le jeu comme ça.
C'est référencé, je suis d'accord, mais c'est malaisant quand
non,
même.
Bah non, je suis désolé. Quand c'est référencé,
bon,
c'est...
Bon, on va pas débattre là-dessus trop sans cette ADH. La démo de Resident Evil 2. On va commencer déjà par un point qu'on va évacuer rapidement à TH. La limite de temps, on est d'accord, c'est débile, ça empêche de profiter de la démo et je vois pas l'intérêt.
Complètement con. Mais après, voilà. La réponse que j'ai, c'est des japonais, voilà.
Ouais, non, mais en vrai, non, mais t'as raison, hein, c'est totalement des japonais, quoi. J'en ai vu qui disaient que, oui, à l'époque, il y avait déjà une limite de temps. Oui, mais au moins, la démo, tu pouvais la recommencer.
C'est ça. Là, c'était déjà.
Alors que aujourd'hui, avec la magie de l'internet, tu ne peux plus recommencer la démo, tu vois.
Enfin, bah, mise à part, en trafiquant toi-même ta version PC, ou bien si t'es sur PlayStation, de jouer avec un autre compte, quoi. Ou Xbox, ouais, je suppose que c'est pareil aussi. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait la démo, j'ai voulu prendre mon temps. C'est vraiment, vachement frustrant. Du coup, bah, je me suis connecté avec un autre compte. Et puis, j'ai pu finir la démo. Mais c'est complètement con, déjà, de mettre une limite de temps. Mais en plus de ça, quand tu télécharges la démo, t'as accès à un certain type de contenu. Je vois pas pourquoi ça les empêche de nous laisser aller jusqu'au bout.
Bah, c'est pas comme si le jeu entier était contenu dans les 8 gigas qu'on a téléchargé.
C'est ça.
Hein, c'est honnête, quoi.
Je te dis, c'est complètement débile. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, c'est con.
Oui, je précise au passage qu'évidemment, AT chez moi, somme toute de des risquiers, hein, comme il a dit, lui, il a créé un autre compte. Moi, étant joueur PC, évidemment, je me suis pas fait chier, hein. J'ai téléchargé un outil qui m'a permis de mettre pause sur le timer et j'ai joué 45 minutes. Merci pour la démo, hein. C'est vraiment une très bonne démo. Moi, j'ai adoré. Par contre, allez vous faire foutre. Voilà. Alors, ATH, tes impressions sur ce Resident Evil 2? Pour ma part, j'ai trouvé que c'était assez fidèle à l'original, que ça respectait le côté lourd du personnage de Resident Evil 2 sans pour autant avoir un gameplay de tank mobile, on va dire. Globalement, j'ai apprécié. Par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu gênants. Je pense notamment aux zombies où tu sais pas combien de munitions il faut pour les tuer, premier point. Et deuxième point, les bruitages d'une manière générale, enfin surtout les flingues. En tout cas, je dis les flingues, mais c'est vrai qu'on en a qu'un. Comme dans Resident Evil 2, l'original, j'avais l'impression de tirer avec un pistolet à billes, quoi.
Mais t'as deux flingues parce que t'as aussi le fusil à pompe.
Ah bah je l'ai pas trouvé, tu vois.
En fait, il est dans... Ou d'un moment, tu trouves une carte qui te permet d'accéder au casier du commissariat de Raccoon City, et t'as le fusil à pompe, mais c'est vrai qu'en termes de bruitage, ça fait un peu cheapos, hein. Après... Tu parlais du fait qu'il fallait tirer beaucoup de munitions sur un zombie.
Ah, c'est en fait, pas tant qu'il faille en tirer beaucoup, c'est qu'on ne sache pas combien de balles il faut pour en tuer un. Parce que moi, je vous assure, t'as beau tirer 100% headshot à chaque fois, des fois tu vas one-shot le zombie, ça m'est déjà arrivé, et des fois il faut 3 balles, enfin tu comprends pas. Il y a un côté aléatoire qui me paraît très chelou, quoi.
Et il y a aussi un truc qui est un petit peu déstabilisant. Il y a un zombie qui tombe à terre, et toi tu te dis, ok, je vais la jouer en mode survie, je vais économiser des balles. Donc moi je suis arrivé, j'ai commencé à poignarder le zombie au sol, et j'ai fait bon bah là, c'est... vu tous les coups que je lui ai mis, il doit être mort. Je suis parti faire mes petites affaires, et quand je suis repassé, là il m'a attrapé la jambe, il m'a agrippé. J'ai fait non, là franchement Capcom, c'est abusé. Si je suis assez intelligent pour repérer le zombie et d'essayer de le tuer, c'est à toi d'essayer de me surprendre différemment. Ça c'est un problème de game design, parce qu'il y a d'autres jeux qui le font très bien. Par exemple je pense à Dead Space. Dead Space n'a pas ce problème là. Dead Space te dit ok, t'as repéré que là on a essayé de te piéger, bravo à toi. Bah du coup on va essayer de t'avoir sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on joue avec le joueur. Moi je trouve que ça gâche un peu l'immersion du joueur.
Bon par contre on a beaucoup râlé là, mais je tiens à dire une chose, c'est que moi j'ai passé un excellent moment. Pourquoi ? Parce que déjà je trouve qu'il joue pas mal avec justement les vétérans comme moi, parce qu'il y a des trucs auxquels on s'attend et finalement on les trouve pas là, mais il te laisse par exemple le liqueur, tu sais, il laisse une trace de griffe à l'endroit où tu dois rencontrer pour te faire t'as vu hein, clin d'œil. Il joue pas mal avec ce qu'on sait de l'original, et aussi moi je trouve qu'ils ont très bien retranscrit le gameplay de l'original sans pour autant faire un truc vieillot. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans Resident Evil 4 où quand tu tirais, bah tu pouvais pas bouger, etc. On a un Léon qui reste tout de même mobile, mais par contre c'est vrai que tout en restant mobile, ben c'est pas Action Man Léon quoi. C'est-à-dire que il peut se faire défoncer assez rapidement. Quand il se met à tirer, il doit quand même prendre son temps pour viser, etc. Il garde quand même une certaine lourdeur, mais une lourdeur qui n'est pas non plus frustrante. Et qui laisserait à penser que le jeu est un peu vieillot, quoi. Tu vois.
Ouais, et puis même, il y a aussi une mécanique qui a ajouté à ça pour pallier un petit peu à ce fait que tu puisses te déplacer par rapport au titre original. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, ta visée est moins précise. Du coup, si tu veux faire des headshots plus efficacement, il faut que tu restes sur place et que, entre guillemets, tu te concentres pour bien viser. Ça, c'est un peu logique. Si tu te déplaces, et ben le viseur, tu vas voir qu'il va devenir un peu plus grand et que tes tirs vont être beaucoup moins précis. Et ça, c'est une idée qui est plutôt bonne sur le papier. Faudra voir sur la durée comment ça se passe, mais pour l'instant, je suis plutôt confiant par rapport à ça. Et le truc qui m'a fait le plus plaisir en jouant cette démo, quand même, le Resident Evil 4, 5, 6, on partait dans de l'action à ne plus savoir qu'en faire. Là, vraiment, on retrouve ce côté un petit peu flippant des origines de la série. Et ça, c'est vraiment un truc... Bah moi qui me fait très plaisir, voilà. Honnêtement, le côté action, c'est cool, mais vu que tous les jeux quasiment c'est des jeux d'action, le fait de revenir à quelque chose de plus horrifique, ça c'est un bon point pour moi sur Resident Evil 2. Parce qu'il y a aussi un truc qui est assez frappant en jouant à ces démos, c'est que le jeu est très beau, notamment les effets de lumière, et quand t'es dans le noir, il y a moyen de faire un truc assez génial, surtout en jouant avec les ambiances. Et ça c'est un truc qui... Voilà, moi je tiens à saluer parce que c'est quelque chose qui manquait un petit peu dans les anciens Resident Evil.
Alors par contre, ATH, un autre reproche, je crois, que tu faisais, mais cette fois, c'est spécifique, pour le moment, à la version française, à savoir les doublages qui sont, de ce que tu m'avais dit, je crois...
Ouais, mais voilà. C'est les PNJ secondaires qui sont... Enfin, il y a des PNJ qui sont très bien doublés, par exemple, je pense au Black, là, qui est dans le commissariat. Lui, je trouve que sa voix colle très bien au personnage. Mais par contre, il y a d'autres PNJ que tu rencontres dans le commissariat. Je trouve que les voix sont faites un petit peu à l'arrache en VF. Et bah du coup, quand j'ai relancé la démo, j'ai fait en anglais. Et la version anglaise est carrément au-dessus de la version française. Parce que même la voix de Léon en français a fait trop jeune, tu vois. Même si c'est plutôt bien approprié. Dans
après, ça colle au personnage.
Ça colle au personnage totalement. Mais j'ai l'impression que c'est un petit con, en fait, dans la version française. Et j'aime pas.
Bon, et puis d'une manière générale, moi je suis ravi de tout cet aspect gestion qui est présent tout de suite. Notamment, j'aime bien le côté, tu sais, où tu trouves des planches de bois pour barricader les fenêtres. Je pense qu'il va y avoir tout un aspect optimisation de parcours qui va être très intéressant. Et je, à mon avis, pour le speedrun, ce truc-là, ça va être assez intéressant aussi. Voilà. En fait, le truc, c'est que fondamentalement, c'est pas un jeu qui bouleverse la formule originale, mais je trouve qu'il arrive assez bien à le retranscrire dans un jeu moderne, avec des déplacements modernes, dans des couloirs exigus, etc. Pour moi, c'est vraiment un remake qui a l'air digne du remake qu'il y avait eu à l'époque pour Resident Evil 1, quoi. C'est vraiment un remake actuel. Bon, par contre, il y a juste un truc à mon avis qui va perturber les joueurs qui ne connaissent pas les premiers épisodes. C'est tout l'aspect commissariat avec des portes, des portes que tu dois ouvrir avec la clé verte sur machin. Enfin, ça c'est vraiment le jeu vidéo des années 90 où il fallait foutre des puzzles partout. Et bon, alors ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il le justifie entre guillemets par le lore du jeu, quoi. Mmh. Mais ça va quand même, à mon avis, perturber pas mal de monde, quoi.
Ouais, et encore là, ça va, c'était des clés, mais. Faut rappeler quand même dans la première version, fallait trouver des rubis, des diamants, tu vois. Donc t'as l'impression en fait que les mecs de Raccoon City c'était tous des mecs pétés de thunes, tu vois. C'est-à-dire les mecs pour ouvrir une porte au calme, ils mettaient une ébreuse de 18 carats sur la porte. Mais bon, ça renforçait un petit peu le côté série B de la série qui était plaisant. Là, on sent quand même que le jeu est un peu plus sérieux, donc du coup ils ont mis des clés. Tu as parlé du fait qu'on pouvait mettre des planches de bois sur les fenêtres pour optimiser ses parcours et tout. Et moi, faut savoir que dans Resident Evil 4, ma séquence préférée, c'est la séquence de tout début du jeu, quand tu arrives dans le village et que tu te barricades dans une maison et tu tentes de survivre. Je trouve cette séquence juste épique. Et là, j'espère vraiment que dans ce jeu-là, donc là, c'est la spéculation, mais qu'on va avoir aussi le fait de des moments comme ça, en fait, comme dans Resident Evil 4, où on va devoir se barricader dans le commissariat ou je sais pas où, pour tenter de survivre à des vagues d'ennemis. Ça, c'est un truc, je trouve, qui renforcerait encore plus l'aspect survie du titre, et c'est quelque chose qui me botterait pas mal. Et il faut savoir aussi que dans le jeu, tout le monde pense que c'est Resident Evil 3 qui a apporté le concept de Nemesis qui te poursuivait à travers tout le jeu, alors que non, en fait, c'était déjà présent dans Resident Evil 2, qui s'appelait Mr. X. Bah là, du coup, ce qui va faire plaisir, c'est que Mr. X va être présent dans le jeu, mais déjà, j'ai pu remarquer ça avec les zombies, c'est que les zombies te suivent, en fait. C'est-à-dire que les zombies, dans les anciens Resident Evil, t'avais un peu le syndrome où je pars sur une porte, du coup, ça charge la partie suivante, mais les ennemis qui te poursuivaient, bah ils ouvraient pas les portes. Et bah là, avec Mr. X qui va pouvoir te suivre dans tout le jeu, plus les zombies qui vont pouvoir aussi traverser les portes et tout ça, je pense qu'il y a un moyen vraiment de rajouter cette tension qui manquait, parce que les speedruns, si vous regardez un speedrun de Resident Evil 2 aujourd'hui, les mecs savent que quand tu passes une porte, ils sont safe, entre guillemets. Là, je pense qu'il y a moyen d'être très vite submergé si tu fais n'importe quoi.
Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que c'est plaisant de jouer à Resident Evil 2 sans déchargement, quoi. Oh, ah, ça change la vie, hein.
Faut savoir aussi que le jeu, il est en sur la version console, il est quand même en 60 FPS. Ils auraient pu, je pense, faire un jeu encore plus joli en mettant un jeu à 30 FPS stable, mais ils ont quand même choisi d'optimiser la jouabilité.
Bah surtout que le moteur a de la gueule, quoi, franchement.
Ah oui, non mais vraiment les effets de lumière, en fait tu reconnais le jeu, mais ça n'a plus rien à voir. Et comme tu le disais très bien, Resident Evil 1 qui était sorti sur GameCube, mais tu le mets encore aujourd'hui, il est beau à pleurer. Certes, il sera en 4 tiers et tout, mais c'est juste n'importe quoi ce qu'ils ont poussé dans ce remake-là. Et là, t'as l'impression qu'ils sont partis dans la même direction en disant, ok, là, c'est Resident Evil 2. Beaucoup de gens considèrent justement que Resident Evil 2 est un jeu culte. Il faudra pas se louper. Et moi, c'est un titre que j'attends vachement parce que, comme tu l'as dit, je suis fan du jeu d'origine. Mais en plus de ça, le travail qui est fourni derrière, bah, ça fait quand même plaisir à voir. Tu vois que Capcom, il se fout pas de la gueule.
Bah, tu sens qu'il y a un respect des développeurs vis-à-vis de l'œuvre originale. Enfin, dans toute la démo, ça transpire de partout, quoi. C'est pas un projet vite fait, secondaire, en mode, vas-y, on va te faire un pseudo remake facile. Ils se sont sortis les doigts, tu le vois, quoi.
Ouais, et puis même, enfin, c'est un des plus gros projets de Capcom, parce qu'il y a quand même 800 développeurs qui ont travaillé dessus.
Il y a plus beaucoup d'éditeurs qui font des jeux solo comme ça, faut le dire aussi.
Et puis le fait de redécouvrir un jeu quand même qui a 21 ans, c'est un jeu qu'on a connu quand on était adolescent ou bien assez jeune. C'est pas comme s'ils disaient « Eh les gars, on ressort Resident Evil 6 sur PlayStation 4 avec 3-4 textures en plus ». Et en plus de ça, faut savoir que la campagne solo du jeu de base avant était découpée en deux. Il y avait la campagne de Léon et la campagne de Claire. Mais aujourd'hui, la campagne de Léon et de Claire sera jouable intégralement sur la même ligne, c'est-à-dire à certains moments tu vas jouer Léon, à certains moments tu vas jouer Claire, Mais en plus de ça, tu as aussi la possibilité d'incarner Ada Wong, ce qui n'était pas possible dans le jeu de base.
Plus les personnages bonus qu'il y avait dans le jeu d'origine. Hunk et l'espèce de Tofu.
C'est ça, c'est, bah, de toute façon, il s'appelle Tofu. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois que, par exemple, Tofu, c'est un personnage totalement ridicule. C'est juste un tofu comme ça qui est là. Donc un tofu, c'est juste, je sais pas, un rectangle blanc en fait. Et ils sont dit, les mecs, ils ont joué au jeu à la base, il y était, et on va pas ne pas le mettre parce que le truc était ridicule. On le met quand même pour le clin d'œil et pour le fan service. Et c'est quand même assez important, je trouve, d'avoir gardé l'identité de Resident Evil 2 tel qu'il était à l'époque, quoi.
Voilà. Bon, vous l'aurez compris, hein, on sera présent. On est très enthousiastes. Allez, je vous propose qu'on s'arrête pour cette semaine, messieurs.
Ouais.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut, salut.